C'est 2 ans et demi que je suis aquariophile. Je suis tombé dedans chez un copain en fait qui avait un aquarium et c'était vachement sympa, ça égayait l'appartement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas y mettre, ne pas m'y mettre. J'ai acheté un aquarium un an après, un tout petit machin. Ça m'a vite pris la tête. J'ai changé, j'ai racheté un 120 litres que j'ai gardé pendant un an, eau douce bien sûr. Maintenant j'en suis à un bac de 240 litres, j'ai une vingtaine de poissons à l'intérieur, une 5-6 espèces différentes.
Quel genre de poisson?
J'ai des mollies, j'ai des gouramis, j'ai des veuves, j'ai des corydoras, enfin plusieurs espèces de poissons, c'est encore un aquarium communautaire, tropical, tempéré.
Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien?
Ça demande vachement d'entretien en fait, au moins une demi-heure par jour. Ou alors, puis oui, une demi-heure par jour facile quand même.
Mais c'est nécessaire.
Oui, c'est nécessaire parce que sinon, les poissons, dans 2-3 deux, trois, deux, trois, dans 2-3 mois, tu vas les trouver tout ce vent travers si tu ne t'en occupes pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Et les plantes, c'est des plantes spéciales?
C'est des plantes qui vivent aussi en zone tempérée, c'est des plantes qui supportent une température de 18 à 30 degrés en moyenne.
J'ai entendu parler de pH, dureté, etc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent par rapport à l'eau? Est-ce qu'il est préférable que l'eau soit acide ou bien, enfin, je sais pas trop.
Beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Le pH, donc c'est l'acidité ou l'alcalinité de l'eau.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que en fait une eau peut être acide, une eau peut être basique. Tout dépend des espèces de poissons qui vivent à l'intérieur. Certaines espèces ne supportent que des eaux acides, exemple les discus, c'est par exemple certains poissons préfèrent vivre dans des eaux beaucoup plus basiques, les espèces particulièrement de poissons d'eau de mer ne supporteraient pas vivre dans un bac acide. Il faut réguler ça avec plusieurs éléments. On peut réguler ça avec de la tourbe pour acidifier l'eau. Il y a des produits qui peuvent rendre l'eau plus basique.
Lesquels?
C'est des produits qu'on achète en magasin, c'est des produits spécialisés, donc donner des noms, j'en connais pas en tête. Qu'est-ce que tu me posais d'autre comme question?
J'avais entendu parler de dureté.
Ouais, bah la dureté c'est un autre rapport, ça c'est là, oh là là, c'est dans des termes très techniques. Pour vous donner un exemple, une eau d'évian sera très très dure, une eau volvique sera excessivement douce. C'est-à-dire qu'en fait, en détaillant, c'est la dureté carbonatée de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, le potassium, le calcium, etc., etc., vont faire qu'une eau sera plus ou moins dure. Et c'est pareil, certaines espèces supportent une eau dure et d'autres ne veulent pas en entendre du tout parler.
Comment tu peux voir que l'eau elle est soit acide, soit basique? Comment tu règles un peu tout ça?
Il y a des tests qui s'achètent en magasin.
Ouais.
À partir de là, si tu vois que ton eau est trop basique, donc comme je l'expliquais auparavant, tu vas rajouter de la tourbe à l'intérieur. Tu vois que ton eau est trop acide, tu vas rajouter un produit pour l'équilibrer. Sachant que les produits dans un aquarium ne sont pas très bons, généralement il faut toujours trouver des trucs naturels.
C'est-à-dire?
Ben, comme je te dis, de la tourbe pour acidifier l'eau. Parce qu'en rajoutant des produits, ça pollue l'eau. C'est pas bon du tout. Il y a les nitrates aussi qui rentrent en jeu.
Qu'est-ce que c'est, les nitrates?
Les nitrates, ben, c'est les poissons, comme tous les animaux, font des déjections. Les déjections se transformer. Progressivement, petit à petit, ils vont se dégrader, ils vont se transformer en nitrate, en nitrite, plein d'éléments qui sont nocifs pour la vie des poissons. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer un aquarium très souvent.
Et tu le nettoies comment?
Eh bien, tu siphonnes l'eau, tu siphonnes le seau avec un siphon, il faut faire des changements d'eau régulièrement, 10 à 20% par semaine. Puisque dans la nature, il n'y a pas besoin de faire ça, l'eau est complètement renouvelée, mais dans un aquarium, c'est un bac fermé et avec aucun apport extérieur, donc il faut le faire soi-même, quoi.
Est-ce que malgré toutes les préventions que tu prends, il t'est arrivé d'avoir des problèmes?
Je pense que tout aquariophile qui a eu des problèmes, oui.
Oui, mais quel genre?
Bah des poissons qui tombent malades, qui attrapent certaines maladies, des plantes qui tombent aussi malades parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'engrais, ou qu'elles ont trop de lumière, ou qu'elles n'en ont pas assez. partir de là, il y a des méthodes bien sûr pour soigner tout ça. Certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas du tout. La preuve, c'est qu'il y a encore 3-4 jours, on a eu un poisson qui s'est retrouvé dans le problème.
Et le facteur algue, il arrive comment
le
et...
facteur algue, il y a plusieurs sortes d'algues déjà. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent lui faire se développer, soit un excès de nitrite, soit trop de lumière, soit pas assez de lumière, soit une exposition au soleil, soit... Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, que trop de nourriture, ça va faire monter les taux de nitrate vont engendrer une production d'algues, parce que les plantes, parce que les plantes en fait mangent les nitrates entre autres. Elles, ça sert des nitrates pour croître. Mais quand il n'y a pas assez de plantes, des algues se forment à cause de l'excès de nitrates. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les poissons peuvent attraper des maladies par plein de... Je sais pas, moi, on va introduire sa main à l'intérieur de l'aquarium pour le nettoyer. On va avoir des bactéries, des microbes dessus qui peuvent contaminer les poissons. Il y a tellement de choses. Enfin bref, c'est quand même une belle passion. Je préfère largement ça que de m'occuper d'un chien ou d'un chat.
Donc en deux, trois mots, si je décidais d'avoir un aquarium, tu me conseillerais de faire comment? Étape je dois...
Déjà, tu dois pas prendre un petit bac, de prendre le plus gros bac que tu puisses, parce que plus un bac est petit, plus les maladies se développeront vite, et plus il y aura de problèmes. Donc prendre déjà un gros bac, le plus gros du 120, 200 litres pour commencer, c'est très bien.
Ouais, c'est déjà un bon bac.
Ne jamais commencer par de l'eau de mer, commencer par de l'eau douce, parce que l'eau de mer, c'est excessivement complexe. Je pense que moi, je ferais en ce moment un aquarium d'eau de mer, c'est sûr que je le raterais.
Parce que t'es pas assez compétent.
Ça fait 3 ans et il faut vraiment bien s'y connaître. Je commence seulement à comprendre certains trucs.
Ouais.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Ne pas acheter n'importe quoi. Il y a certaines espèces qui ne veulent pas vivre ensemble. C'est pareil, il y a certaines espèces de plantes qui ne s'accommoderont pas dans un aquarium tempéré. Il y a des plantes qui veulent un aquarium froid. Ne jamais mettre des blocs de calcaire dans un aquarium, parce que alors, ça va dérégler totalement.
Qu'est-ce que c'est des blocs d'aquarium?
Des blocs de calcaire, des cailloux. Quoi. Sur le calcaire, ça va dérégler complètement ton aquarium. Qu'est-ce que je peux dire comme eux, c'est dingue.
Qu'est-ce que je peux... comment je dirais? Comment je sais qu'une variété de poisson n'est pas compatible avec une autre?
En s'informant, en achetant des magazines, en se renseignant...
D'après ce que je comprends, tu lis beaucoup
Il faut quand même se renseigner un petit peu. C'est pareil, quand tu achètes un chien ou que tu achètes un poisson, il faut se renseigner, parce que si tu achètes un gros chien et tu vis dans 20 mètres carrés, il va devenir complètement dingue. C'est exactement pareil pour des poissons. Tu vas pas mettre, c'est pareil, un chien et un chat dans 20 mètres carrés. C'est exactement pareil pour les poissons. Tu vas pas mettre un piranha avec, par exemple, des néons. Ça va faire très mauvais mélange. Donc il faut se renseigner, il faut regarder, c'est comme tout.
Et la documentation est chère?
Documentation est quand même... De toute façon, un aquarium, c'est loin d'être donné.
À combien ça te revient à peu près par...
À peu près, ça me revient, j'ai 1600 francs d'aquarium, j'ai, 300, 400 francs de matériel, j'ai 200, 300 francs de poissons, et j'ai 100, 200 francs de plantes. Donc ça revient facilement, l'aquarium que j'ai me revient facilement entre 2500 et 3000 francs. Plus tous les à côté. Les médicaments, si t'as un poisson qui tombe malade, la nourriture, etc. etc. Donc c'est un entretien constant et ça demande des dépenses environ 100 à 150 francs par mois quand même.
Ouais.
Pas plus cher qu'un chien. Et l'avantage sur un chien, c'est que t'as pas besoin de le sortir quand il fait mauvais. Et que ça pisse pas n'importe où. C'est largement mieux, voilà.
Quand tu dis que le plus coûteux pour toi c'est les produits, etc., mais c'est pas tout d'abord les poissons?
Un investissement à la base, mais après ils peuvent se reproduire. Donc à partir de là, en fait, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est tous les produits d'entretien, tous les ustensiles dont il y a besoin, voilà, en fait. La nourriture surtout.
Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, d'arriver à faire de la reproduction?
Une fois, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai eu 4 algues qui ont grandi. D'ailleurs, il me reste encore un.
Ouais.
Donc en fait, c'était un accident. Un matin, je me suis levé, j'ai regardé l'aquarium, j'ai trouvé 4 bébés.
que j'ai été dû à 4 bébés 4 à 20, que j'ai été obligé d'isoler.
Tu les avais trouvés comme ça dans l'aquarium?
Oui, je les avais trouvés comme ça dans l'aquarium. Ils avaient été aspirés par la pompe et ils étaient bloqués dans le filtre à décantation. Voilà, donc je les ai isolés dans un petit aquarium parce que sinon ils auraient fait 2 secondes, les gros ça serait jeté dessus.
Ah bon, parce qu'ils se mangent entre
eux? Oui, les parents mangent les enfants. C'est la loi de la jungle. Surtout dans un petit aquarium, dans la nature, c'est immense, donc ils ont beaucoup plus droit à quoi. Dans un petit aquarium, il faut les isoler parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour se cacher. Donc je les ai isolés pendant 6 mois. Et ils ont, à partir du moment où ils ont attrapé la taille raisonnable, je les ai, du moins le survivant, je l'ai mis dans l'aquarium avec les autres. Ses parents étaient morts entre temps d'ailleurs. Alors parlons un peu maintenant de la reproduction des poissons. Il y a en gros 2 espèces de poissons, les poissons vigipares et les poissons ovivivipares. Donc comme leur nom l'indique, les poissons vivipares donnent des alevins quand ils sortent du ventre de la mer, sont totalement conçus. Donc parfois ils ont une petite poche résiduelle en dessous, une poche vitelline qui leur permet de se nourrir pendant 2-3 jours avant de pouvoir avaler des aliments. Et il y a les poissons, donc j'ai dit les vivipares, là oui, et les ovivipares, ceux qui pondent des œufs. Ensuite le mâle viendra les arroser de sperme et au bout d'un certain nombre de jours, ça dépend des espèces de poissons, les poissons. Citons par exemple le mode de reproduction d'un poisson très charmant qui s'appelle le Tridocaster leiri ou Gourami mosaïque ou Gourami perlé. Le mâle construit un nid de bulle avec son mucus, du moins sa salive, mélangé avec l'eau dans un coin de l'aquarium. Dans les plantes, la femelle n'a pas le droit d'intervenir. Une fois que celui-ci a construit son nid de bulle, il va se frotter contre le ventre de la femelle jusqu'à ce que celle-ci pondre des œufs, qu'il va mettre lui-même dans le nid de bulle, arrosé de son sperme, et qu'il surveillera, et la femelle n'aura pas le droit de toucher les nids, de s'approcher du nid de bulle, elle sera même chassée. Voilà par exemple le mode de reproduction est donc du Tridocaster leiri. D'autres poissons comme le plati mettent, du moins ça couple normalement, le mâle à un gonopode, c'est-à-dire que sa nageoire anale s'est transformée en gonopode, c'est-à-dire le sexe chez le poisson mâle. Il l'introduit à l'intérieur du ventre de la femelle, la féconde, et au bout de 3-4 semaines, les petits naissent totalement vivants, formés, peuvent se nourrir dès la naissance.
Bon, parlons d'autre chose que leur reproduction, parlons de la vie à l'intérieur même de l'aquarium. Comment elle s'organise? Donc, il y a déjà plusieurs niveaux de nage dans l'aquarium, le niveau supérieur, le niveau inférieur et le niveau intermédiaire. Chaque niveau doit être occupé par des espèces de poissons pour que l'aquarium soit le plus haut possible. Donc il faut au moins 3 espèces de poissons, des poissons de fond, qui vont en même temps jouer le rôle des boueurs, des recycleurs. Le niveau...
Qu'est-ce que tu appelles les boueurs?
Bah, du poisson comme le style Corydoras ou Pleco, qui en fait toute la journée remue le sable, cherche la nourriture qui est à l'intérieur. Donc en fait ils ont des barbillons à l'avance, ce sont des poissons chats, les Corydoras. Ils ont des barbillons comme les poissons chats. Avec des barbillons, ils retournent le sable, et ce qui permet entre autres d'enlever tout ce qui pourrait rentrer dans le sable. Ils le mangent. Ou alors ils le mettent en suspension dans l'eau qui va être aspirée par la suite par le filtre à décantation. Donc ils ont un rôle en fait des boueurs en même temps que de recycleurs. Les 2 autres zones sont essentiellement peuplées par des poissons tout simplement qui ne font que nager et se nourrir. Il y a d'autres espèces de poissons, donc il y a le pléco que je citais auparavant qui en fait un mangeur d'algues. Très utile dans l'aquarium, le seul inconvénient qu'il a c'est qu'il peut devenir très très gros, jusqu'à 25 cm. Donc il prend énormément de place, en plus c'est un poisson qui ne vit que la nuit. Donc ça c'est pareil, il y a des poissons qui vivent la nuit, des poissons qui vivent le jour. Donc voilà quoi.
Et comment tu peux savoir que des poissons vivent le jour et la nuit alors que...
Eh ben simplement ils ont de la documentation, et en se renseignant.
Ah oui, d'accord, t'as pas constaté le phénomène de par quand même.
Ah si, si, bien sûr. Tu regardes la nuit, tu vois bien que la nuit, le pléco, la journée, il va rester planqué sur son tronc, et qu'à partir du moment où l'aquarium va s'éteindre, il va se mettre en route. On va le voir sur les vitres, en train, avec sa ventouse. Avec sa bouche qui fait ventouse, il va se coller et c'est un octosynclus. c'est un auto-son avec le sénat, et ce conseiller mangeur des modèles réduits. Et donc voilà, ça monte un poisson nocturne aussi, comme le Botia, qui se cache dans le tronc, que l'on ne voit qu'à l'heure des repas, parce qu'il n'est pas bête du tout, il sort à 8h, parce qu'il sait qu'à 20h le soir, je leur donne à manger. Donc à 8h moins le quart, il sort, à 8h15, il rentre se cacher, on le voit une demi-heure par 24h. Donc en fait, c'est vachement sympa d'acheter un poisson, qui vaut d'ailleurs pratiquement 60 balles, et de le voir une demi-heure par jour. Mais il a un rôle particulier, c'est que c'est un mangeur d'escargots. Il faut savoir que dans un aquarium, lorsqu'on achète des plantes, même si on les nettoie très bien quand on les reçoit, parce que, du moins quand on les achète, c'est à partir du moment où on achète des plantes, il faut les nettoyer pour enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir dessus. Il y a toujours des escargots qui vont rester dedans, les escargots vont se développer, les escargots sont des mangeurs d'algues, donc ils peuvent être utiles, mais quand ils prolifèrent trop, ils n'ont plus assez d'algues à manger et ils s'attaquent aux plantes. Donc en fait, le boîtier est un régulateur et qui mange des escargots. Voilà. Donc la distinction des sexes chez les poissons n'est pas forcément aisée. Il y a certaines espèces, comme je le citais aussi précédemment, qui ont un gonopode. Donc là, il est tout de suite facile de regarder au niveau de la nageoire anale s'il a un gonopode ou une nageoire. S'il a une nageoire, c'est une femelle. S'il a un gonopode, c'est un mâle. Généralement, les mâles sont aussi plus beaux et plus colorés dans la plupart des espèces, bien que chez les poissons, comme les trinocastères, ils ont exactement pareil, sauf que la nageoire dorsale du mâle est beaucoup plus longue que la nageoire dorsale de la femelle. De même pour les corydoras, pour différencier un corydoras mâle d'un corydoras femelle, il est pratiquement impossible, ils n'ont pas de gonopode, il faut simplement regarder, le ventre de la femelle est légèrement plus arrondi que celui du mâle. Il arrive aussi dans beaucoup d'espèces que la femelle est généralement plus grande que le mâle, ce qui n'est pas toujours le cas. Comme pour les trigocastères, ils ont à peu près la même taille. J'irais même que chez les gouramis dorés, le mâle est plus grand que la femelle. En fait, il y a plein de points à regarder. Je vais dire aussi une chose, c'est que les espèces de poissons normalement qu'ils vendent en commerce n'ont plus rien du tout à voir avec les véritables souches qui vivent dans la nature, puisque les trois quarts des poissons normalement qu'ils vendent en commerce non, sont génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des poissons rousses fluo, qu'on peut, que les Black Molly par exemple, que Marielle aime tant, en fait, à la base, ils ne sont pas noirs du tout, ils sont gris ou bouchetés, et que justement, lorsqu'il y a des naissances, une femelle fait généralement entre 20 à 60 petits, il va y en avoir plus des trois quarts qui ne vont pas être noirs à la naissance, mais qui vont être gris ou tachetés. Donc c'est triste, c'est comme ça, et donc ça n'a strictement rien du tout à voir. En fait, l'espèce de Corydoras que j'ai qui sont Schwartzy, c'est un croisement entre deux espèces, entre le Corydoras, que j'ai pas de bêtises, Panda je crois, et Aelus. C'est un croisement entre les deux, c'est une espèce qui n'existe pas dans la nature, qui a justement été développée pour l'aquariophilie, parce que c'est une espèce qui est beaucoup plus résistante que les deux autres. C'est pareil, j'ai un vieux Corydoras femelle qui n'a plus qu'un œil, qui a bien survécu d'ailleurs. Donc voilà. Je vous